Je suis ici en compagnie de Luc et François Skuyten. Bonjour.
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 Comment ça vous est venu de faire de la bande dessinée?
Ça remonte loin. Ça.
Oui, je pense tout simplement parce que d'abord on en lit. Et si on en lit, on entre dans le plaisir de l'imaginaire de la bande dessinée. Et puis, si on aime dessiner, c'est presque assez naturel de passer à la réalisation.
Vous aussi, vous dessinez des bandes dessinées, Luc, au tout début?
Ah oui, oui. C'est venu depuis le départ, je dirais. Quand j'ai commencé à en lire, il y avait tout de suite un crayon et un papier de dessin à côté qui faisait que je recopiais bêtement ce que je voyais. Ça m'a toujours turlupiné, donc ça ne pouvait pas se passer autrement.
Est-ce que votre père, Robert, qui était aussi architecte, aimait la bande dessinée et dessinait et s'essayait à des histoires illustrées?
Non, non, certainement pas. Il n'aimait pas la bande dessinée. Il trouvait que c'était une forme d'expression un peu secondaire, je dirais, pour ne pas dire autre chose. Mais à la fin, je pense qu'il avait un petit peu d'admiration pour Hugo Pratt, par exemple, ou pour Comès, qui trouvait qu'il y avait une forme d'expressionnisme dans le dessin qui était peut-être auquel il pouvait être sensible. Mais sinon, il était vraiment dans une hiérarchie des arts, où là, d'abord la peinture, l'architecture, la musique, etc. Et bon, à le convaincre que la bande dessinée faisait partie des grands arts, c'était un travail que nous n'avons pas totalement réussi.
Luc, vous dessinez aussi des BD. Est-ce que vous avez été publié dans des magazines avant François Skuyten?
Très très peu. Je faisais plutôt des cartoons pour des journaux. C'était plus politique, mais fort engagé dans les contestations alternatives, révolutionnaires, et déjà l'écologie aussi. Donc c'était plus dans ce domaine-là que j'ai cherché à m'exprimer.
C'était pour le magazine Pour, c'est ça? Et Skuyten avec SK.
Voilà.
UTN.
Oui, oui. Donc je l'avais écrit en phonétique parce que j'avais déjà remarqué qu'en France c'était une très grosse difficulté de prononcer notre nom, enfin qu'en tout cas qui n'était très mal prononcé. Donc je l'ai
c'est toujours
en phonétique.
Le cas.
Oui, c'est toujours le cas. Absolument.
Vous regrettez cette période de dessinateur de presse? Vous vous êtes amusé à le faire? Vous n'avez jamais eu l'ambition de faire un recueil de livres justement de dessins de presse?
Non, j'en ai pas fait suffisamment. Il n'était pas, j'avais pas vraiment la matière pour ça. C'est une période formidable. J'ai beaucoup beaucoup aimé ça, mais je continue un petit peu dans cette voie-là avec maintenant mes dessins qui sont estampillés copyleft. Donc j'ai une série de dessins qui sont une forme de réflexion sur le monde dans lequel nous vivons. Et qui s'exprime par un dessin, par une petite légende, et en les estampillant de ce C à l'envers, je les donne à disposition de tout le monde, ils ne m'appartiennent plus, donc chacun peut les utiliser comme ils veulent.
Alors François, vous avez une particularité avec Bilal, c'est que vous avez tous les deux été publiés pour la première fois par le journal Pilote.
Oui, mais enfin, c'est très très peu ce que j'ai fait, c'est plus et en plus c'est dans l'édition belge de Pilote, donc c'était, on m'a dit que c'était dans l'édition française aussi, mais j'en ai jamais eu la preuve de ça. Non, c'était vraiment 5 pages, un passage éclair.
C'est... Ce qui est remarquable, c'est l'âge à laquelle tu as publié
oui,
ça.
Oui, oui.
C'était 16 ans, non?
Oui, 16 ans, oui. C'était
un record absolu.
Oui, c'est ce qu'avait dit le rédacteur en chef de l'époque. Il disait, bon, je ne sais pas si c'est la plus grande histoire du journal, mais c'est en tout cas l'auteur le plus jeune.
Ça s'appelait Mutation, et c'était dans quel cadre, en fait? Ils avaient lancé un appel à concours, non? Vous l'avez présenté spontanément?
Oui, spontanément.
Et le rédacteur en chef, le nom?
Ah là, ça fait vraiment... je serais incapable de vous le dire. Mais par contre, je lui voue toujours une certaine reconnaissance, parce qu'il a quand même eu le... Voilà, il a vu quand même quelque chose, et c'est quand même celui qui m'a publié la première fois. Et bon, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais en tout cas, moi, je le remercie.
Alors, vous avez fait des études à Saint-Luc, à Bruxelles, tandis que Luc a fait des études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Vous avez été publié dans Le 9e rêve, la revue lancée par Claude Renard. Quels souvenirs conservez-vous de l'expérience du 9e rêve et des cours de Claude Renard?
Alors, le mot « cours » n'est pas tout à fait... juste avec Claude. C'était vraiment un maître d'atelier, je dirais. c'est-à-dire quelqu'un qui créait une dynamique avec, et puis il y avait un ensemble d'étudiants qui était assez nouveau pour l'époque parce qu'il y avait plus de filles, il y avait un climat qui était très nouveau parce que on voulait se démarquer de Tintin et Spirou qui commençaient tout doucement à décliner. Même Franquin se fatiguait de ces journaux et on regardait tous vers Paris. C'est là où des journaux comme Métal Hurlant, comme à suivre le Fil Glacial, l'Écho des Savanes, étaient en train de bouger, de remuer. Et donc ce mouvement à Bruxelles était porteur de pas mal d'énergie. Donc Claude était évidemment, je dirais, le moteur.
Il y avait Antoinette Colin à l'époque, il y avait...
Alors il y avait Andreas, il y avait Philippe Berthet, Cossu, il y allait avoir bientôt Bézian, il y avait... Beaucoup, beaucoup d'auteurs sont passés en fait par l'école Saint-Luc. Mais on était très peu d'étudiants à l'époque, il y avait peut-être en tout une petite trentaine. Maintenant ils sont peut-être le triple ou le quadruple.
Et Luc, vous dessinez plutôt des peintures, de l'architecture à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles ?
Et moi, j'avais pris une voie différente, puisque c'était l'architecture. Et l'architecture m'a toujours beaucoup passionné. Donc là, il fallait dessiner aussi, mais c'était dans un autre registre. Et c'était commencer à concevoir les choses en trois dimensions, voir comment on pouvait les mettre en scène pour qu'on puisse s'y intégrer, s'y plonger. Donc j'aimais bien, quand je concevais un bâtiment, essayer de le mettre dans son contexte et de voir un peu comment il allait prendre sa place dans son environnement. Donc le dessin m'a continué à m'accompagner à ce moment-là.
Vous avez quand même travaillé tous les deux, hein, ensemble. Oui. Comment ça s'est fait, en fait ? Donc vous avez travaillé d'abord pour Métal Hurlant, tous les deux ensemble, sur des courtes histoires qui ont été reprises dans un volume, Les Terres Creuses. Oui. Il y a eu 3 tomes. Comment ça s'est fait, en fait ? Comment vous avez contacté Métal Hurlant, en fait, à Bruxelles ?
Mais d'abord, c'est quand même en partie grâce à mon frère que j'ai lu d'abord les bandes dessinées, parce qu'il me les lisait avant même que je ne sache lire. Donc, c'était presque naturel qu'on commence à faire des histoires ensemble, puisque bon, on a quand même 12 ans de différence.
Oui, oui.
Et donc, c'était un peu un père. J'avais plusieurs pères, en fait, par certains côtés. Et donc, oui, de passer d'une lecture commune à en faire, c'était assez un mouvement assez normal. De prolongation, je dirais, de ce plaisir. Et donc oui, on a commencé, je me rappelle, Métal Hurlant venait de naître, et c'était un journal tellement incroyable, fascinant, avec Moebius qui faisait des choses à chaque numéro totalement époustouflantes, il y avait Droyer, et puis il y avait un climat, il y avait un espace de liberté, c'était comme une porte ouverte vers plein d'imaginaires. La musique aussi, qui entrait très fort dans...
Rien que le titre.
Oui, rien que le titre, évidemment. Et puis c'était tellement vivifiant, après quand même, le sentiment que des journaux dits grand public pour enfants, comme Spirou et Tintin, devenaient un peu un été noir. C'est-à-dire on sentait que l'étau se resserrait, il fallait continuer et prolonger le talent des anciens, mais il y avait assez peu de portes vers ce qui était en train d'arriver.
Quelle a été votre première réaction, Luc, quand vous avez vu Métal Hurlant, justement ?
Mais c'était effectivement une grande fascination parce que le ton était complètement différent. On retrouvait un pont vers les États-Unis, vers des choses tellement... des nouveaux univers à découvrir. On voyait que l'imaginaire qui était développé par les journaux classiques était... très limité dans les espaces à découvrir. Et là, brusquement, le terrain de jeu était devenu énorme. Et il était porteur de tellement d'enthousiasme, de découverte. C'était aussi un peu cette idée que quand on était gamin, un gosse, en lisant une bande dessinée, on découvrait un monde complètement extraordinaire. On avait quelques idées de ce que pouvait être l'Afrique ou l'Amérique du Sud en rentrant dans une bande dessinée. C'était un monde nouveau qui s'ouvrait à nous. Une fois adulte, ce monde était plus ou moins connu. Alors c'est là que des journaux comme Métal Hurlant ont ouvert un monde d'impossible, enfin pas d'impossible, d'un imaginaire complètement débridé qui montrait qu'on pouvait aller de loin au-delà de cette réalité, qu'on pouvait imaginer des choses complètement extraordinaires.
Quelle était votre méthode de travail concernant les récits? Qui écrivait? Vous faisiez tout à quatre mains, en fait, un peu comme Eric Warnot, c'est...
Ou... Non, mais le problème, souvent, en bande dessinée, c'est qu'on imagine qu'il y a un scénariste et un dessinateur. C'est vraiment très, très difficile de changer ce réflexe. C'est parfois vraiment agaçant. Avec Claude Renard, on faisait les dessins ensemble et on faisait le scénario ensemble. Avec Benoît Peters, on écrit l'histoire ensemble. Et bon, et avec Luc, on avait encore une autre façon de travailler, c'est que parfois je faisais des dessins, Luc en faisait d'autres, il créait l'univers parfois d'une ville, et puis bon, l'histoire rebondissait, puis il y avait des idées qui lui appartiennent, d'autres qui m'appartiennent, tout ça était assez mélangé en fait, et à la fin, j'aurais difficile à dire ce qui est de l'un et de l'autre, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, voilà, ça représentait un univers commun.
L'architecture, tout ce côté architectural de votre père vous a quand même nourri dans l'élaboration de ces BD?
Oui, bien évidemment. Comment ne pas être influencé? C'était quelqu'un d'abord qui était un peu un professeur. Il aimait bien prendre ses enfants comme des étudiants, donc leur donner à comprendre une vision de la peinture et de l'architecture. Et bon, moi, j'étais le dernier, donc j'ai quand même aspiré ça pas mal. Mon frère a aussi, mais plus en opposition, et parfois aussi enfin, c'est un mélange de différentes façons de réagir à une source. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous a marqués tous les deux.
Mon père était très charismatique, et il communiquait très fort. Et dans la famille, on n'avait pas tous la même réceptivité vis-à-vis de nos parents. On n'avait pas droit à autant d'égards ou d'amour ou d'affection suivant la manière dont on réagissait face à tout ce qui était pictural, le dessin, ce mode d'expression. Mon père était très très engagé dans cette voie-là et dès le moment où il voyait que l'on dessinait, on avait droit à beaucoup plus d'attention que les autres. Et c'est certainement quelque chose qui nous a porté, qui a peut-être fait un peu plus de tort du côté de ceux qui ont été oubliés dans ce développement, mais c'est comme ça. Et nous avons été en tout cas très motivés dès le départ à nous exprimer par le dessin, même si la manière dont on utilisait ce mode d'expression n'était pas celui que mon père attendait de nous. Il y avait quand même une attention, un regard, un intérêt qui était quand même présent.
Alors c'est marrant parce qu'à cette époque-là, vous avez collaboré à une illustration d'une pochette de disque 45 tours, Claudine Simon.
Comment tu sais ça, toi? Ça alors?
On a travaillé
non,
ça hein?
Non, c'est moi qui fais ça.
Ah, c'est toi.
Tu n'as pas travaillé
ça. C'est toi,
ça.
C'est toi, oui.
Ça alors?
Il fait écrit François Alex Keuten.
Ah oui, bah oui, tu as dû travailler dessus aussi. Ah oui, ça alors.
Mais c'est plutôt.
Oui, c'est plutôt
toi.
Tu as dû apporter ta patte à un moment.
Oui, mais c'est quand même très fort, toi.
Voilà. Donc, Claudine Simon était une de mes clientes, donc j'ai construit sa maison. Et elle était chanteuse, donc elle a fait un 33 tours et un 45 tours. Je ne sais pas qu'il y avait un 45 tours, donc j'ai encore un.
Ah, il y a le 33 tours aussi, c'est le même design, c'est la même pochette.
C'est le même dessin.
D'accord. Ça, vous aimez bien à l'époque, comme ça, illustrer les pochettes,
oui,
des affiches?
Dès qu'on me demandait de dessiner, j'étais content, évidemment. Non, c'était vraiment fait par plaisir uniquement. Et c'était une période vraiment chaque fois fort intéressante, même si je regarde ça avec un peu moins d'enthousiasme aujourd'hui, de voir sortir des choses pareilles.
Moi aussi, j'ai des choses que j'ai faites, je préférerais ne plus les voir. D'ailleurs, je les détruis dès que je peux, mais c'est un vrai travail. Il y a quelques affiches que j'essaye de poursuivre pour essayer d'enlever le maximum de leur présence.
Je cacherai ça très vite, ouais. Parce que tu risques qu'on te le déchire devant toi.
J'ai vu sur Internet, je crois, j'ai vu que François Keuten avait illustré un coffret de disques de Gérard Manset.
Oui, il y a un coffret de disques, mais là, je viens de travailler avec lui pour Les 101 Femmes, qui est un collectif des bibliophiles. Et donc, ils sont 101, il y aura 101 coffrets. Et là, ce sont des illustrations par rapport à un fait texte. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de complicité comme ça, qui me fait beaucoup plaisir parce que j'ai toujours adoré Gérard Manset quand j'étais jeune. Et de collaborer avec lui, c'est très, très, très agréable, c'est très chouette.
Il y a 101 personnes qui travaillent à ça?
Non, c'est 101 femmes qui sont, donc, sont des cercles bibliophiliques et qui commandent à des artistes. Il y a trois grands cercles bibliophiliques, je crois, en France. Généralement des hommes, mais bon, il y en a. Et donc, ils commandent à un artiste ou deux, donc un écrivain et un dessinateur de travailler ensemble. Et ils ont comme ça quelque chose d'un peu unique et qui est uniquement réservé à eux. On n'en fera jamais rien d'autre. Je ne peux pas publier les dessins ailleurs que dans... Donc c'est très, très particulier. C'est très étrange. Je n'ai pas tout compris, mais bon, le plaisir, c'était de collaborer avec Gérard Manset. Et lui, il trouvait ça très rigolo, donc on s'y est fait.
Une exclusivité. Oui. Alors, vous n'avez jamais illustré les pochettes de 10 ou vous, 45, 33
si. Mais rien... Oui, non, j'en ai fait pas mal, mais rien d'inoubliable.
Bah, d'ailleurs, c'est introuvable. Oui, non, par exemple, un nom d'un chanteur ou d'un groupe.
J'ai oublié.
Plutôt bruxellois, c'était pas un...
Non, il y en avait un hollandais aussi.
Alors, de Métal Hurlant, vous passez à Suivre, une collaboration avec Benoît Peeters. Comment vous en êtes retrouvé dans À Suivre et comment vous avez rencontré Benoît Peeters?
Ouh là là, Benoît, je connais depuis que j'ai 12 ans. On faisait un journal ensemble. On a beaucoup raconté cette histoire parce qu'on était sur le même banc d'école et naturellement, on s'est mis à raconter des histoires. Il s'est fait qu'on a fait un petit journal. Et c'est d'ailleurs amusant de voir que c'est à peu près le même type de collaboration que j'ai aujourd'hui avec lui, que j'avais à 12 ans. Donc c'est vraiment, on imaginait les histoires à deux, puis il y en avait un qui dessinait et l'autre qui écrivait le texte. Voilà, ce processus, je dirais, a perduré, perdure encore. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a travaillé à Suivre? Parce que tout simplement, Jean-Paul Mougin était délégué par les éditions Casterman pour aller un peu chercher dans les jeunes auteurs belges. Parce que bon, il voulait quand même un journal qui était au départ belge. Il voulait quand même qu'il y ait un minimum d'auteurs belges. Et donc, ils avaient bien sûr repéré cette école de bande dessinée, cette jeune école. Et donc, ils sont venus voir et c'était un plaisir de les rencontrer. Et puis bon, ils ont fait quelques essais avec différents auteurs. Et en définitive, c'est surtout Sokal et moi qui sommes restés.
Il y a aussi Comès.
Oui, mais Comès n'a pas été... ils ne sont pas venus le chercher à l'école. Bien sûr, il y avait Comès avant. Très vite, le capitaine de ce bateau, graphiquement, c'était Hugo Pratt. Hein. Vraiment, le journal s'est créé autour de lui, et autour de Tardy, autour de Comès. C'est vraiment ça qui a constitué la colonne vertébrale des premiers à suivre. Et c'était très exaltant d'être dans un journal comme ça, comme dans Métal Hurlant. C'était formidable parce qu'on avait d'un côté l'énergie et l'énergie vitale de Métal Hurlant, le côté rock, le côté un peu parisien, qui nous voyait arriver, Belges, avec une certaine, je dirais, désinvolture et pas mal d'humour, parce qu'à l'époque, les blagues belges ne nous rendaient pas spécialement très crédibles. Mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'auteurs qui étaient dans le cinéma, dans la musique, dans la peinture, qui travaillaient à Métal Hurlant. Tandis qu'à Suisse, c'était tout à fait autre chose. C'était effectivement un monde un peu plus littéraire, avec des références d'un autre ordre. Mais d'avoir ces deux pôles, ces deux mondes, c'était vraiment quelque chose d'assez rare. Parce que ce sont deux, quand des journaux se créent, il y a un appel d'air. Et ça, c'est une chance pour les jeunes auteurs, parce qu'ils sont naturellement pris par le mouvement.
Et Luc, vous lisiez aussi À Suivre. Quel était vos ressentis vis-à-vis, justement, du travail de François et de Benoît sur les cités obscures?
Mais si mes souvenirs sont bons, on a commencé à voir ensemble.
Absolument.
Les premières histoires dans À Suivre.
C'est avec Luc.
On a fait la Terre Creuse, la partie en noir et blanc, ouais. et quatre pages qui n'ont jamais été sorties en album. Non. Donc on avait démarré avec ça. Donc ça faisait partie d'une aventure qui avait déjà amorcé. Et évidemment, moi, j'étais très, très séduit par ça. Et sur ces deux pôles qui se complétaient très, très bien. C'est vrai qu'il y avait une continuité, une démarche fort intéressante dans la suivre qui m'a beaucoup plu. toute la narration de Ici même par Tattardi était très très intéressante.
Ça a commencé sur le chapeau de roue, hein. Silence, Ici même, quand même, tout ça est d'un niveau très rare, hein. C'est exceptionnel.
Et le nom du journal que vous aviez fait avec Bonin Peters, il s'appelait comment ?
Il s'appelait Go.
Go, G-O.
Oui.
Bah, ça veut dire on y va, quoi. Oui, il y avait un côté dynamique comme ça.
Voilà, et on avait des visions un petit peu d'un futur très prometteur pour ce journal, parce qu'on le voyait vraiment grandir au fur et à mesure. Et on se voyait sur des yachts diriger de très loin la rédaction de ce journal, qui est devenu mondial. Bon. Mégalo déjà.
Alors vous avez travaillé aussi avec Claude Renard, votre professeur, votre maître, on va dire ça comme ça.
Ouais, sur... Professeur, j'aime pas, mais enfin disons en tout cas quelqu'un qui avait un...
Votre précepteur peut-être.
Oui, si vous voulez, c'est un drôle de mot aussi ça. Non, mais c'est quelqu'un qui était aussi une dizaine d'années de plus que moi et qui avait une expérience assez différente, donc un enrichissement graphique et il avait été marin aussi, bon, il avait tout ça nourrit évidemment un dessinateur et c'était un grand plaisir de travailler avec lui. Et oui, très naturellement, on s'est mis à dessiner, je crois, presque 6 mois après que je suis entré dans la section bande dessinée. Ce qui était d'ailleurs bizarre, parce que quand on avait des jurys, les jurys étaient confrontés à un travail d'étudiant et en même temps du professeur, pour revenir au terme.
Il y a eu les Métamorphoses avec lui, un cycle qui s'est réintitulé Métamorphoses. Vous avez aussi connu Claude Renard, Luc ?
Oui, très, très bien, tout à fait. Oui, oui. C'était une époque où on était tous très très proches. C'était un petit monde en fait. Hein. Il n'y avait pas énormément de gens qui gravitaient autour des mêmes thèmes. Donc on se voyait fréquemment. Mais c'était surtout une relation entre François et Claude dans laquelle moi je n'avais pas ma place puisque je n'ai pas collaboré à ce travail-là.
Alors, j'ai vu aussi, François, que vous travaillez aussi sur la scénographie, vu que Claude Renard est devenu scénographe. Est-ce que c'est différent de travailler pour la scénographie plutôt que la BD ? Est-ce que ça se rapproche, les univers, de mettre en scène la BD et des expositions, des spectacles ?
Bah, c'est un petit peu ce qui nous rapproche, Luc, Claude et même Benoît, c'est que on a fait de la bande dessinée ou on en fait, mais on a une activité à côté. C'est peut-être ce qui est intéressant, c'est les passerelles qui existent entre différents domaines. Quand on ne fait qu'une seule chose, par certains côtés, on en arrive peut-être un peu plus vite au bout. L'avantage de pratiquer d'autres formes d'expression, c'est que d'ailleurs on continue à raconter des histoires, parce que la scénographie, c'est un peu raconter une histoire aussi, mais avec d'autres moyens, d'autres outils. Et ça enrichit, ça impacte aussi le travail de dessinateur, parce que ça lui permet d'être confronté au réel, de vivre autrement. Et puis aussi, c'est très différent, parce qu'en scénographie, vous êtes avec beaucoup de monde. Pour un musée ou pour une exposition universelle, vous pouvez être entouré de 200 personnes, tandis que la bande dessinée, vous êtes seul.
Vous avez aussi illustré les timbres-poste, et je ne sais pas si Luc a illustré les timbres-poste aussi.
J'en ai fait une fois, oui.
Je crois que je l'ai vu sur Internet, je crois. Alors justement, en parlant d'Internet, pour vous, le monde a changé au niveau des bandes dessinées. Est-ce que vous consommez encore des BD de manière traditionnelle, ou est-ce que de temps en temps, vous lisez des BD numériques ?
Moi, je ne lis pas de BD numériques, en tout cas, c'est tout à fait rare, mais ça peut arriver. Je peux lire sur... dans le soir, la BD tous les jours, parce que je lis un soir numérique, mais ce n'est pas mon choix de lire en numérique. J'aime bien encore avoir une BD papier. Je ne suis plus abonné à des journaux, mais j'achète des BD très régulièrement. Et c'est un grand plaisir de découvrir les nouvelles choses qui sortent, les nouveaux auteurs, tous ceux qui émergent maintenant dans cette quantité incroyable de livres qui sortent, parce que c'est un peu ça actuellement. Problème, on est un peu noyé sur des productions de toutes sortes de niveaux différents. Il faut pouvoir faire son chemin là-dedans, arriver à sortir ce qui va nous parler, nous raconter des histoires qui vont nous passionner.
Et vous travaillez de manière numérique avec une tablette graphique, François ?
Non, je travaille comme un vieux con, avec du papier, des encres, de la couleur. Mais par contre, pour la nouvelle histoire que je suis en train de faire, c'est la première fois que je vais déléguer mes couleurs. Ouais, c'est la première fois. Et ça sera en numérique. Mais par quelqu'un qui est vraiment un maître en la matière, et qu'elle a eu la gentillesse de se consacrer à ça. Mais sinon, de mon côté, en scénographie, j'ai travaillé pour des films qui étaient constitués uniquement d'images de synthèse ou d'images numériques. Donc, je vois très très bien de quoi vous parlez, mais à chaque fois, je me suis rendu compte que ce qui leur plaisait le plus, c'était que je fasse un dessin, et qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt que je commence à apprendre, à me débrouiller là-dedans, alors qu'ils sont, la plupart des gens que j'ai fréquentés, ils en sont déjà des virtuoses.
Vous avez travaillé pour le cinéma, vous venez de l'évoquer, vous avez travaillé même avec Raoul Servet, qui a été auteur de BD avec Paul N. Pitt aussi, et vous avez travaillé pour Jaco van der Maal. Est-ce qu'un jour, ça vous dirait de créer votre propre film? Ça peut être un film avec des acteurs, comme Yasfar, ou un film d'animation entièrement réalisé par vous. Pareil pour Luc, est-ce que ça vous tenterait de réaliser un film d'animation?
Moi, de mon côté, je ne crois pas en être totalement capable. Je me rends compte que le cinéma, d'abord, il faut avoir beaucoup de patience pour attendre et pour chercher les moyens financiers, la production. C'est très, très laborieux. Peut-être que je l'ai plus sur la scénographie. Déjà là, sur le cinéma, ça sera difficile. Et puis alors, il y a un médium, il y a un métier, il y a une écriture cinématographique que je ne crois pas être capable de dominer pleinement. Voilà, donc à un moment donné, il faut choisir ses combats. À un moment donné, on avait travaillé, on voulait, Benoît Sokal pardon, et moi, réaliser Aquarica, mais on aurait été à deux. Et bon, on n'a pas réussi à monter le projet, c'est maintenant quelqu'un d'autre qui veut s'en charger. Donc ça montre bien que sans doute, on n'était pas tout à fait pour ça.
Et Luc, vous réalisez des images de synthèse, des films d'animation liés justement à votre cité végétale?
Oui, très peu, je délègue ça à d'autres, mais c'est vrai qu'il y a certaines formes de conception qui marchent bien en animation et que j'ai essayé d'animer, mais ça reste très ténu comme travail. Par contre, j'ai tenté de faire un scénario pour le cinéma, un scénario qui aurait dû être fait en motion capture. C'était un projet assez ambitieux parce que ça nécessitait des capitaux très très grands. Et ce jour, je n'ai pas encore trouvé comment je pourrais le réaliser et qui pourrait le réaliser. Donc je me demande maintenant si je ne vais pas essayer plutôt de trouver du côté de la bande dessinée quelqu'un qui aura envie de dessiner mon histoire. Parce que cette histoire correspond bien à mon univers. Donc elle a un côté assez particulier, formaté sur des développements que je m'attelle depuis longtemps déjà et qui prend des tournures qui sont peu habituelles. Donc il y a quelque chose de réellement à découvrir à partir de cela. J'aimerais bien pouvoir mener à bien par une voie différente que celle des dessins que je fais. Mais c'est loin d'être abouti.
Et Aquarica, justement, il y a la BD qui vient de sortir. C'est une BD inspirée du film direct. En fait, c'est une adaptation de ce projet inabouti hors bande dessinée. C'est Benoît Sokal qui en assure le dessin et vous écrivez les scénarios, c'est ça?
Avec lui, on a fait l'histoire ensemble. Une histoire pour le cinéma. Ce n'était pas simple, mais on a passé beaucoup d'années à ça, avec des script docteurs, enfin dans un dialogue permanent. Et puis à un moment donné, c'était tellement long, tellement difficile, après 15 ans, je crois, de mouture et de remouture et de version et de re-reversion, Benoît dit, moi j'ai envie de le faire en bande dessinée. Et dans ce cas-là, je dis, mais fais-le comme tu crois, parce que je n'allais pas commencer à être derrière son épaule, à le regarder, à lui dire ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et donc voilà, il fait vraiment sa version de cette histoire, que j'aime beaucoup, mais c'est sa version.
Quel est votre point de vue vis-à-vis de la réalisation de ces jeux vidéo? Ça vous tenterait de travailler pour le monde du jeu vidéo ou...
Alors oui, bon, moi j'adore ce que fait Benoît dans le domaine du jeu vidéo. Je trouve qu'il a une ambition et puis c'est un cas d'école parce que c'est un des rares qui a réussi à être un auteur dans ce monde avec une ambition comme celle-là, c'est assez rare. Et oui, à un moment donné, j'ai travaillé sur un jeu vidéo, mais c'est dans le tiroir des échecs, parce que le projet s'est effondré. C'était pas du tout lié à la qualité du projet, mais à un problème de production, parce qu'il faut beaucoup d'argent.
On a même fait un projet ensemble pour l'Allemagne pour...
Oui, c'est ça, oui.
Oui, qui n'a pas été très loin,
non.
Mais tu as travaillé les personnages, et moi, le monde de la cité, de la ville, c'était fort amusant.
Mais en fait, dès qu'il y a beaucoup d'argent, eh ben, il y a beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de risques. Et donc, c'est ça qui fait la grosse différence avec la bande dessinée, c'est que il n'y a personne qui vous arrête, c'est uniquement votre travail qui est... C'est vous qui construisez le risque. Vous êtes seul à l'assumer. Et ça simplifie énormément les choses. C'est votre temps. Vous pouvez passer 2-3 ans. Si vous arrivez à financer ce temps-là, eh ben, vous êtes maître à bord. Mais dans beaucoup d'autres domaines, vous êtes tributaire d'un tas de phénomènes. C'est pour ça que la bande dessinée reste quand même un espace extraordinaire de liberté.
Alors, vous êtes tous les deux fans de Hergé ou...
Ouais, oui.
Alors, je sais qu'il y a eu un documentaire, je crois que ça a été réalisé par Benoît Peter, c'était Hollywood Moulinsart,
ouais.
Où vous commentiez, enfin, où François Skuyten commentait la version animée et les adaptations en projet de Tintin. Est-ce que vous avez rencontré Hergé et quel est votre point de vue vis-à-vis du film de Spielberg, si vous l'avez vu?
Ouh là là là. Alors, je ne l'ai pas rencontré. Benoît l'a bien rencontré. Moi, je l'ai croisé, on s'est dit bonjour 2-3 fois, mais ce n'est pas rencontré quelqu'un. Comme j'ai rencontré Jacobs, j'ai rencontré un peu mieux Franquin. Mais Hergé, alors c'était quelqu'un d'assez impressionnant, qui était assez distant, donc ce n'était pas si facile d'arriver à l'aborder. J'ai tenté, mais ce n'était pas si simple. Et en ce qui concerne les adaptations cinématographiques, il faut dire que moi, je pense que c'est infaisable, pour être tout à fait franc. Parce que c'est une tellement bonne bande dessinée, il est au cœur même du langage bande dessinée, et je crois qu'on aura beaucoup de mal à trouver la façon de rendre la subtilité, la qualité du travail d'Hergé dans le domaine cinématographique. Maintenant, ce qu'a fait Spielberg, il faut quand même peut-être pas trop l'assassiner. Il a essayé de correspondre à un cahier de charge américain et avec des gens qui ne connaissent pas Tintin. Et donc, c'est un petit peu une quadrature du cercle. Comment arriver à parler aux jeunes d'aujourd'hui avec un personnage qui est quand même très ancien, et qui n'ont pas les racines, qui n'ont pas cet ADN d'avoir lu Tintin étant jeune. Je trouve que le travail n'est pas si mal, même s'il y a beaucoup de choses à dire.
Et vous avez rencontré Hergé, vous avez rencontré des auteurs de bande dessinée?
Oui, j'ai un peu rencontré Franquin, mais très peu, mais certainement beaucoup moins que François, parce que j'étais plus dans l'univers de l'architecture et François plus de la bande dessinée. Mais concernant ce travail sur Hergé, ce qui est fabuleux chez Hergé, pour moi, c'est la manière dont il raconte une histoire, dont il passe d'une case à une autre, et tout ce qui se passe entre deux cases, sa qualité graphique, tout ça disparaît quand on fait un dessin animé. Donc, on perd tellement de la richesse de son univers que je suis chaque fois remarquablement déçu de voir ce qu'on peut essayer de faire autour de cela sans enrichir son univers. Au contraire, pour moi, on l'abîme, enfin on le traite pas comme il devrait être traité. Et c'est malheureusement bien souvent le cas dans tout ce qui tourne autour d'Hergé, quand on voit tout ce qui peut sortir de ce qu'on peut faire autour.
Vous êtes aussi à l'initiative des cités végétales, d'un point de vue biologique et du futur, ce que pourrait devenir l'humanité en 2100. Vous conceptualisez aussi des villes, ça peut être Strasbourg dans le futur, de manière biologique. Est-ce qu'un jour vous avez pensé à adapter en bande dessinée, ça peut être des scénarios fictionnels, autour de cet univers de cités végétales?
Oui, c'est justement le projet dont je parlais tout à l'heure. Mon scénario qui s'appelle Utopia City, c'est l'histoire de 5-6 jeunes qui travaillent dans un Fab Lab et qui sont de disciplines tout à fait différentes et qui vont s'atteler à un concours pour la création d'une petite cité expérimentale, mais 100% durable, soutenable, écologique, en utilisant une grande partie des apports du biomimétisme pour arriver à concevoir leur projet. Et c'est toute leur pérégrination, la manière dont ils vont rater, réussir, plus ou moins leur expérience, les enjeux, etc. Et tout ça fait partie de de l'histoire et surtout cette recherche qui tourne autour de cela. Comment est-ce qu'on peut avancer dans ce domaine et ces hypothèses tout à fait positives.
Alors, François Scrétin, vous avez aussi travaillé sur l'élaboration de Train World. Est-ce que c'était une de vos initiatives? Et vous avez aussi travaillé sur la bande dessinée qui a été inspirée de Train World. J'ai lu La Douce, dont il y a une partie justement numérique, où en ouvrant l'album devant sa webcam, il y a une partie interdimensionnelle qui se profile.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, oui, c'était, disons, un désir dans le sens où j'avais entendu parler qu'il y avait un concours autour d'un futur musée du train. Et voilà, j'ai postulé, j'ai proposé un premier scénario qui a été accepté donc, dans ce petit concours. Et puis de fil en aiguille, ça a mis quand même 10 ans, hein, cette histoire. Mais enfin, on y est arrivé. Et le fait de plonger, de m'immerger dans ce monde ferroviaire m'a naturellement donné envie de raconter cette histoire autour de la Type 12. Et le récit est venu presque sans vraiment que j'ai eu besoin de me gratter la tête, parce que c'était tellement évident que ce monde était porteur d'histoires, d'images, de récits, quoi, profondément. Et donc c'est vrai que les deux ont cohabité, la réalisation, la conception, la réalisation et la scénographie de ce musée, et en même temps l'album. C'était comme un ensemble qui allait presque de pair. En fait, j'avais l'occasion d'être dans ce monde, et en même temps je le dessinais, ce qui était une façon d'encore mieux le comprendre et d'encore mieux le rêver.
Juste une petite question vis-à-vis de ça. Est-ce que vous avez des collaborateurs? Est-ce que vous avez un studio Skuyten où vous faites vraiment la BD de A à Z?
Non, je suis tout seul. C'est ça qui est un avantage et parfois un inconvénient, parce que c'est très très dur de faire une bande dessinée, toujours, et à 61 ans, ça reste un effort et une discipline extrêmement exigeante, extrêmement exigeante. Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai toujours à faire. Une planche reste pour arriver à ce qu'on soit relativement satisfait des personnages, des mouvements, de la situation, de la mise en scène, des attitudes, du décor. Eh ben, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Ça reste très, très dur. Tandis qu'en scénographie, je trouve que j'ai la chance d'avoir maintenant des collaborateurs, mais qui ne travaillent pas chez moi, mais ils sont différents pour chaque projet. Mais là, c'est un vrai plaisir justement d'être accompagné. Je vous dirais que c'est parfois plus reposant, parce qu'on peut faire confiance, on peut déléguer et on peut voir son travail se réinventer par d'autres. Tandis qu'en bande dessinée, ben, il faut aller jusqu'au bout tout seul.
J'ai vu aussi, Luc, que vous inventez des machines. C'est difficile d'inventer, d'être inventeur? Est-ce qu'il y a des brevets? Est-ce qu'il y a une officialisation des inventions? Est-ce que vous participez aussi à des salons d'invention?
Non, pas du tout. Et je ne vais pas jusque-là, j'invente un peu comme dans la bande dessinée, c'est-à-dire que je pars d'une idée, je la pousse jusqu'à un certain point dans sa réalisation, parce qu'il y a quand même quelques engins avec lesquels je roule, je me déplace, qui font partie de ce que j'ai pu imaginer.
C'est un peu comme le cacophone.
Voilà. Donc, Panamarenko, il disait « Toutes mes machines marchent, même mal, mais elles marchent. » Et donc c'est un peu ça, quand on veut se mêler de faire ce genre de choses, ça marche, mais pas toujours aussi bien que ce qu'on aimerait que ça puisse marcher. Mais pour moi, c'est un besoin important, c'est de mettre ce que je vis, ce que je fais en concordance avec ce que je pense et ce que je ressens. Et c'est ça qui rend la vie passionnante, c'est de dire, ben, j'ai une idée, est-ce qu'elle peut fonctionner ou pas, et essayer de l'expérimenter. Et ça m'a toujours beaucoup plu d'habiter et de fonctionner dans ce qui est mon propre imaginaire. C'est une manière de le nourrir aussi.
Oui, parce que quand on fait ça, automatiquement, quand on redessine quelque chose, il est tout à fait différent, parce qu'on a été confronté au fait de la réalité, de le réaliser. Donc moi, ce qui m'énerve parfois dans certains dessins, c'est que ce n'est pas le cas de Franquin. Franquin, quand il dessinait quelque chose, il était extrêmement crédible. Extrêmement. Ces machines à inventer, ça marche. On sait que ça marche. On ne sait pas comment, mais il a fait, mais en tout cas, on y croit à mort. Et bon, hélas, parfois, il y a des dessins, on se dit, mais ça ne marchera pas une seconde. Comme il y a des bâtiments, on se dit, ça ne marchera pas une seconde. Et je trouve que le rapport au réel fait que ben, le dessin s'enrichit, évidemment, de cette confrontation régulière.
Et est-ce que vous peignez aussi de temps en temps, vous deux? Est-ce que vous sculptez? Est-ce que vous peignez?
Qu'est-ce que ça veut dire peindre?
Peindre des toiles one shot?
Non, avec un châssis, avec de l'huile, mais ça,
ou de l'aquarelle ou...
Ça n'est pas fait que de... Non, moi je ne suis pas peintre. Je pense que chacun, voilà, dans le mot peinture, je suis dessinateur, illustrateur. Je ne sais pas si vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus, mais la peinture. Si vous parlez de l'histoire de la peinture, je ne crois pas du tout que je suis capable de m'y insérer.
D'accord. Voilà. Pas de soucis, c'était juste une question.
Non, mais on peut s'insérer dans la peinture en faisant d'acrylique, en faisant du crayon. Donc, je ne crois pas donc pouvoir construire quelque chose qui aurait du sens dans le domaine, dans le monde de la peinture.
Et de la sculpture non plus?
Et encore moins de la sculpture.
D'accord. Et Luc, vous peignez, vous sculptez?
Pas dans le sens où on peut l'entendre généralement. J'essaie de donner une expression graphique à une idée, et pour ça je passe par des couleurs et par un dessin, mais ce n'est pas de la peinture dans le sens dans lequel on l'entend généralement, c'est plus l'illustration d'une idée, effectivement. J'essaye de représenter de manière très concrète un environnement pour que les gens puissent y rentrer, puissent y plonger, s'immerger dedans. Donc il faut le rendre crédible, il faut essayer de lui donner envie de pouvoir quelque part s'inscrire dans cette démarche, et c'est ça que j'essaye de faire. Alors, je ne sais pas très bien quel mot il faut donner à ça, parce que c'est toujours un problème. Un mot, ça peut être très réducteur, mais pour moi, c'est une forme d'expression graphique, je dirais. C'est ce qui me va encore le mieux.
Maintenant, pour conclure cette interview, quels sont vos projets? Y a-t-il un moyen de vous suivre sur les réseaux sociaux ou sur Internet? C'est la question des auditeurs, hein, comme toujours. Alors Luc, je sais qu'il y a un site internet, citévégétale.net. Je crois qu'il y a plusieurs URL, mais qui redirigent tous vers le même site. Il y a aussi un compte Facebook où on peut suivre vos actualités.
Tout à fait. Ça prend de plus en plus d'importance, parce que je vois que c'est une manière de communiquer qui marche fort bien. Et donc mon site est fort investi. Il y a des heures de lecture si on veut tout voir. Mais bon, c'est une arborescence, donc on peut évidemment s'y promener, mais ça fait partie de la manière dont j'essaye de communiquer.
En plus, il y a le livre Archiborescence, un petit clin d'œil, et il y a même un espace vidéo où il y a Thierry Lhermitte qui a essayé une de vos inventions.
Absolument. Absolument, je l'ai emmené dans un véhicule un peu improbable, à pédale, etc. Ça l'a fait mourir de rire. C'était très très amusant, parce qu'il a... Il a bien aimé l'univers dans lequel je l'ai emmené.
Et François, votre rapport au site internet, aux médias virtuels, comme ça, vous n'avez pas de site, je crois, vous n'avez pas de Facebook?
C'est un peu plus compliqué. Au départ, on avait un très gros site, on était parmi les premiers. On était parmi des pionniers, je dirais, des sites bande dessinée. C'était urbicande.be, c'était un site très très ambitieux. Mais alors, je dois dire qu'il est... Non, il est à l'état de ruine. C'était une espèce de piranèse Internet. Mais depuis, je dois dire que je n'ai pas réussi à trouver mon plaisir. Enfin, je suis complètement imperméable à cette dimension. Mais Benoît Peters est très présent sur Facebook. Il a des tas de choses, il fait des tas de choses. Et puis Altaplana, qui est un site très dynamique, qui heureusement relaye un petit peu et pallie aux carences. En fait, ce qui m'amuse, c'est un petit peu plus explorer, mais je suis pas très bon dans le fait d'utiliser ça. Ça dévore du temps. Et en fait, ce temps-là, je préfère le
investir dans autre chose.
Voilà, l'avoir sur le papier ou dans des aventures un petit peu qui m'occupent pour l'instant.
En tout cas, merci beaucoup, hein, Luc et François Skeuton, de m'avoir accordé du temps. Et je vous souhaite une très bonne continuation et de bonnes concrétisations de projets, bien sûr.
Merci, bonne soirée.
Merci. Et aussi, bonne soirée.
Merci.
Ça va.